Voici une question dont nous avons tous besoin d'une réponse claire. Quels sont les résultats de l'orgueil dans la vie d'une personne? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous devons tous considérer sérieusement aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on a tous besoin de comprendre ce que Dieu va nous enseigner aujourd'hui en réponse aux questions que voici. Y a-t-il des croyants qui prennent le crédit pour le travail des autres? Est-ce que l'orgueil peut nous pousser à prendre des fonctions que Dieu ne nous a pas données? Est-ce que l'orgueil peut nous amener à blâmer les autres pour nos erreurs? Est-ce que l'orgueil peut aveugler une personne au point où elle veuille tuer son propre fils? Est-ce que Dieu peut choisir quelqu'un d'autre pour nous remplacer dans notre service si nous lui désobéissons? Demeurez à l'écoute. Le pasteur et Jean Joly est sur le point de nous apporter un enseignement qui nous sera sûrement très profitable dans notre vie quotidienne. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir ce qu'il a en réserve pour nous. Prions. Seigneur, je sais que tu as des trésors en réserve pour nous par ta parole aujourd'hui. Et je te demande de les déverser sur nous, de nous bénir richement par tes saintes écritures. Touche nos cœurs, mon Dieu. Amen. À toi, Réjean.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, la royauté de Saül fut confirmée après qu'il conduisait le peuple à une victoire sur les Ammonites et qu'il secourut Jabès en Galaad. Samuel prononça un discours qui fut son dernier prononcé publiquement et officiellement. Il expliqua au peuple que Dieu le bénira s'il demeure obéissant et s'il reste dans les voies de Dieu. Au cours des dernières émissions, j'avais exprimé des doutes au sujet du salut de Saül. Le véritable caractère de Saül va commencer à se manifester dans ce chapitre. Saül avait l'apparence d'un roi, mais pas le cœur d'un roi. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 4. Saül était âgé de... Le texte hébreu indique réellement Saül était âgé de 3 points de suspension. Le nombre des années ayant effectivement disparu. Saül avait sans doute entre 30 et 40 ans. Revoici la lecture du texte. 1 Samuel 13, versets 1 à 4. Saül était âgé de, 3 petits points de suspension, 1, lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 était avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant, « Que les Hébreux écoutent !» Tout Israël entendit que l'on disait, « Saül a battu le poste des Philistins !» Et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Prenons-nous le crédit pour le travail d'un autre? Le vrai caractère de Saül se manifeste déjà. Lorsque nous l'aurons vu en action, il ne nous impressionnera plus. Nous lisons dans ces versets que Jonathan bâtit le poste des Philistins qui est à Geba. Et qui est-ce qui s'approprie le crédit de cette victoire? Saül, bien entendu. Jonathan semble être un chef militaire doué, et au prochain chapitre, nous verrons que Jonathan remportera une deuxième victoire en employant une stratégie inhabituelle. Dans le cas présent, Jonathan remporta la victoire et Saül fit sonner de la trompette. Saül a fait annoncer qu'il avait remporté la victoire alors que c'était son fils. Cependant, l'armée savait que c'était Jonathan qui méritait les honneurs. Saül n'était certainement pas humble. J'ai dit au début qu'il manifestait de la fausse humilité, et cette opinion semble être exacte. Versets 5 et 6. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Les Philistins se sont rassemblés et reviennent en force contre Israël. Versets 8 et 9. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Prenons-nous les fonctions d'un autre par orgueil? Nous apprenons une autre chose au sujet de Saül. Il a présumé que puisqu'il était roi, il pouvait offrir un sacrifice à Dieu. Plus tard, nous verrons qu'Ozias, aussi appelé Azaria, un autre roi, présuma qu'il pouvait exercer les fonctions d'un prêtre. Dieu le jugea sévèrement en le frappant de lèpre. Ce récit, vous pouvez le lire dans 2 Chroniques, chapitre 26. Saül ne se préoccupa pas de la parole de Dieu qui interdisait à quiconque autre qu'un Lévite d'offrir des sacrifices. Chacun sa place, chacun son poste. Dieu réclame la fidélité à chacun d'entre eux. Versets 10 et 11. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. » Blâmons-nous les autres pour nos erreurs? Saül n'a pas voulu attendre pour Samuel. Il était impatient et présomptueux. Il a donné ce qu'il pensait être 3 bonnes raisons de ne pas attendre l'arrivée de Samuel. La première, le peuple se dispersait. La deuxième, les Philistins s'avançaient contre lui. Et la troisième, Samuel était en retard. Bien entendu, Saül se trouvait des excuses. Il blâmait tout le monde, sauf lui. Verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Saül ne s'est pas fait violence pour offrir l'holocauste. Saül n'était pas un homme pieux. Nous le voyons maintenant sous son vrai jour. Versets 13 et 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Samuel avait dit à Saül que s'il obéissait à Dieu, il serait béni, mais que s'il désobéissait, Dieu le jugerait. Le roi devait obéir à Dieu. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, des chefs qui marchent dans les voies et dans l'obéissance envers Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas le cas. Nous en aurons un lorsque le Seigneur Jésus reviendra et qu'il règnera sur terre. C'est son but ultime pour cette planète, de glorifier Dieu, son Père. Saül a désobéi, donc Dieu va susciter une autre personne pour le remplacer sur le trône d'Israël. Cette personne fera son entrée en scène plus tard. Même Samuel ignore qui c'est présentement. Versets 15 à 17. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual. Le combat est sur le point de débuter, chers amis. Maintenant, examinons dans quel état lamentable se trouve l'armée d'Israël. Un peuple désarmé est une proie facile pour ses adversaires. Versets 19 à 21. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Et chaque homme, en Israël, descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. Les Philistins avaient désarmé Israël. Les Israélites pouvaient cependant posséder de l'outillage pour cultiver le sol. Par contre, ils devaient se rendre chez les Philistins pour faire aiguiser leurs instruments. Ainsi, les Philistins savaient exactement quelle quantité d'armes possédaient les Israélites. Versets 22 et 23. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Seuls deux hommes, Saül et Jonathan, avaient des épées. Le reste de l'armée devait être équipé de haches, de bêches, de tridents. C'est tout ce que possédait l'armée de Saül pour combattre. Cependant, Jonathan, le fils de Saül, remportera une autre victoire extraordinaire en employant une tactique inouïe. Accompagné de seulement son porteur d'armes, Jonathan a attaqué un poste de Philistins en s'approchant par un passage étroit entre deux dents de rocher. Les deux hommes mirent les Philistins en fuite en en tuant une vingtaine. Nous ne lirons pas les détails de cette bataille, mais nous irons directement aux leçons spirituelles que nous pouvons en tirer. Verset 18. Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Car, en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Les rituels sans relation intime avec Dieu ne valent rien. Saül n'aurait pas dû apporter l'arche de Dieu dans le camp. Comme nous l'avons vu du temps de Samuel, Israël s'était servi de l'arche de façon superstitieuse. Le peuple pensait qu'apporter l'arche dans le camp leur assurait la victoire. Saül semble avoir eu la même notion. Il employait l'arche comme un porte-bonheur, une patte de lapin, en manipulant Dieu d'une façon magique. Verset 23. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Malgré que Saül utilisait l'arche de façon superstitieuse, Jonathan remporta la victoire avec sa stratégie inouïe. Dieu était avec le jeune homme. Malheureusement, il n'a pas vécu longtemps. Mais ce jour-là, Dieu sauva Israël en accordant une victoire éclatante au jeune homme. Il avait la foi placée là où elle devait être, en Dieu et en sa puissance. Versets 24 et 27. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Jonathan ignorait tout du serment que Saül avait fait faire au peuple ainsi que l'interdiction de prendre de la nourriture pendant la journée. Lorsque Saül a donné cet ordre, Jonathan avait déjà remporté la victoire sur les Philistins. Maintenant, nous voyons Saül sur son véritable jour. Jonathan remporte une victoire et Saül s'approprie de tout le mérite. Il ne donne pas à son fils le mérite qui lui est dû. C'est un homme orgueilleux qui est jaloux. Versets 28 à 30. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Saül avait donné un ordre insensé. Les hommes étaient épuisés. Ils avaient livré une bataille et remporté la victoire. Ils avaient besoin de se restaurer. Cependant, Saül a interdit aux hommes de manger tant qu'ils ne seraient pas vengés de ses ennemis. Saül ne manifestait plus aucun signe d'humilité. Verset 35. Saül bâtit là un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül construisit un autel pour offrir des sacrifices. Il n'avait pas le droit d'agir ainsi. Dieu avait confié la fonction de prêtre aux Lévites. Versets 36 et 37. Saül dit, « Descendons cette nuit après les Philistins. Pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un de reste. » Ils dirent, « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül consulta Dieu. « Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? » Mais à ce moment-là, il ne lui donna point de réponse. Dieu se retire de Saül. Dieu n'utilise pas Saül. Il ne lui répond même pas. Versets 38 et 39. Saül dit, « Approchez ici, vous tous, chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si Jonathan, mon fils, en est l'auteur, il mourra. » Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Saül n'accepte aucun blâme dans cette histoire. C'est quelqu'un d'autre qui a péché. L'armée ne dit rien. Elle sait qu'elle doit la victoire à Jonathan. Saül dit en fait, « Dieu ne répond pas parce que quelqu'un m'a désobéi et n'a pas respecté mon serment. » L'armée savait que Jonathan avait mangé du miel, mais que Saül refusait de reconnaître son propre péché. Les hommes ne dirent rien, car il était le roi. Verset 40. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Personne ne dit ce qu'il savait. Retenez cela, personne n'ose parler. Verset 41. Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül croit que Jonathan est le coupable. Versets 42 et 43. Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui déclara et dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. » Jonathan était le coupable. Il était coupable d'avoir mangé avant la fin de la journée ce que son père avait interdit. Saül avait dit, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Mais était-ce une raison pour exécuter une personne? Versets 44 et 45. Et Saül dit, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül, « Quoi? Jonathan mourait lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là! L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. L'orgueil aveugle au point de vouloir tuer son propre fils. Saül était prêt à faire périr son propre fils, s'il s'était opposé à lui, ou s'il avait nui à ses projets. Pourquoi? Saül est un homme jaloux. Jaloux même de son propre fils. Il veut toute la gloire pour lui. L'armée s'était tue tout au cours des procédures, mais maintenant que Jonathan est en danger, elle intervient. Tous parlent en faveur de Jonathan. Nous voyons maintenant le côté négatif du caractère de Saül. Bientôt, nous le verrons désobéir directement à Dieu. Ses actions attireront un malheur sur la nation d'Israël. Si Dieu n'eût intervenu, la nation aurait été exterminée. Saül démontre qu'il n'est pas un homme de Dieu, mais quelqu'un qui marche selon le principe de ce monde. Et le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. Comme nous pouvons le lire dans 1 Jean chapitre 5, versets 18 et 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, chers amis, il n'y a qu'une seule et unique façon de pouvoir se débarrasser de cette domination du malin sur nous. Voilà ce que dit Jean dans son Évangile, chapitre 12, versets 31 à 33. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Oui, chers amis, c'est en ayant les regards sur la croix, sur Jésus, son sacrifice, que nous pouvons être pleinement libérés et de jouir par le fait même d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Saül a désobéi envers Dieu. Dieu va cesser de lui parler par son esprit. Dieu ne lui répondra plus. Lorsque Saül le consultera à nouveau, et il se tournera vers la sorcellerie et le monde des ténèbres. Nous verrons qu'il consultera la sorcière d'Endor. Cette section est d'actualité puisque les gens se tournent vers les sciences occultes de nos jours. Satan est adoré et l'astrologie connaît un regain de popularité. Voilà pourquoi la Bible nous encourage d'abandonner ces pratiques et de nous tourner vers lui seul. De nous confier en Jésus seul. Lui, il connaît tout notre passé et il est venu par le fait même le balayer, le retirer loin de notre face par son sacrifice. Il connaît bel et bien le présent et il dit qu'il nous affermira pour faire face aux épreuves de la vie dans notre quotidien. Il connaît bien l'avenir. Il connaît ton avenir. Il connaît mon avenir. Voilà pourquoi nous sommes appelés aussi à lui faire entièrement confiance concernant notre lendemain. Ma foi repose-t-elle sur l'œuvre de Dieu ou sur des déclarations d'hommes? À vous de choisir. La parole de Dieu se déclare être la vérité seule. Chers amis, prochaine émission, 1 Samuel chapitre 15.
Merci Régent. L'orgueil de Saül. Je n'avais jamais vu à quel point cet homme était orgueilleux. Mais aujourd'hui, on a pu voir tout ce que l'orgueil peut produire dans la vie d'une personne, et même d'une nation. Ça me rappelle le jour de mon baptême. J'ai été baptisé pas longtemps après ma conversion. Et pendant la période entre le jour où j'ai reçu Jésus comme sauveur et le jour de mon baptême, je réfléchissais et je pouvais voir à quel point j'avais été orgueilleuse toute ma vie. Et désirant me débarrasser de cet orgueil, au moment où j'étais dans le baptistère devant mon pasteur, j'ai eu une réaction probablement impulsive. J'ai enlevé mes bijoux. J'avais une belle chaîne en or, une bague en or que je m'étais procurée à Chypre, et une autre bague en or blanc surmontée d'une belle perle que j'avais achetée au Japon. et j'ai mis ces bijoux dans la main de mon pasteur et je lui ai dit, « Faites-en ce que vous voulez, je ne veux plus porter de bijoux, je suis trop orgueilleuse. » Je comprends aujourd'hui que ce n'était pas nécessaire de me débarrasser de mes bijoux pour apprendre l'humilité. Toutefois, je pense que Dieu a compris mon geste. Je pense qu'il a vu mon désir de fermer la porte à l'orgueil. Et je connais des gens qui sont fiers d'être orgueilleux. Un jour, j'étais au salon funéraire devant le corps d'une dame qui était décédée à l'âge de 85 ans. Et j'ai entendu ces filles parler d'elle. J'avais manqué le début de la conversation, mais ce que je les ai entendues dire allait comme ceci. C'était une femme extraordinaire. Elle était très orgueilleuse. Et elle disait ça avec fierté. Elles étaient fières que leur mère ait été orgueilleuse toute sa vie. Ouf! Ça m'a fait un peu drôle d'entendre ça. Mais ce n'est que plus tard, après ma conversion, que j'ai réalisé combien Dieu désapprouvait cet orgueil. Dans le 4e chapitre de l'Épître de Jacques, on peut voir combien Dieu déteste l'orgueil. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Il dit aussi, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Dans le 18e chapitre du livre des Proverbes, au verset 12, il est écrit, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Avant de connaître Dieu, avant de l'avoir pour Père, avant que Jésus devienne mon Sauveur, mon Maître, c'était l'orgueil qui dirigeait ma vie. Et c'était la ruine totale, en affaires, en amour, et même dans ma solitude. Je cherchais ma propre gloire, je l'obtenais, et j'étais pourtant bien malheureuse. Mais quand j'ai tourné mes regards vers Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, ce Jésus qui était doux et humble de cœur, je me suis enfin humiliée devant lui pour lui demander de me sauver, de me donner la vie éternelle, et il a pardonné tous mes péchés, tout mon orgueil, et il m'a délivré de l'enfer que je méritais à cause de ma désobéissance. Dans la première épître de Pierre, au 5e chapitre, au 6e verset, il est écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Mon ami, si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, je pense que maintenant, c'est le temps convenable pour toi de t'humilier devant lui, de lui demander de te sauver, de te donner la vie éternelle. Avoue que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Reconnais que tu es incapable de te sauver toi-même. Jésus a payé cher à la croix, et avant de mourir, il a dit « Tout est accompli ». Humilie-toi devant lui. Ça devrait être facile, lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Demande-lui pardon et reçois Jésus comme ton sauveur, comme ton seigneur. Reçois-le comme ton maître.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine à tous.
Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.